France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La négociation, c'est notre sujet de cette semaine. Parlons ce matin du commerce, lieu quotidien de la négociation. Le commerce est-il pacificateur ou dangereux pour la paix ? Les théories favorables au libre-échange le jugent non seulement fécond pour enrichir tout le monde, mais aussi utile à la paix entre les peuples. Et ce, par-delà les conflits et négociations tendues qui sont banales dans les rapports commerciaux. Nombre d'auteurs du XVIIIe siècle, François Quesnay en France, Adam Smith en Grande-Bretagne, ont suggéré que le commerce libre aidait à éloigner guerre et violence. En cela, il s'opposait à la mentalité dite mercantiliste qui avait accompagné les monarchies absolues depuis le XVIe siècle. En France, Colbert, ministre de Louis XIV, avait utilisé les droits de douane pour limiter fermement les importations. L'idée était que l'économie devait être maîtrisée politiquement pour qu'elle serve toujours à la nation, et le même raisonnement validait le pillage de métaux précieux d'autres pays. Cette vision des choses s'est donc éclipsée à partir du XVIIIe siècle avec l'entrée en scène des physiocrates et des libéraux auxquels est redevable au XXe siècle le projet de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, la mentalité mercantiliste serait-elle de retour ? Donald Trump installe un commerce de combat. Est-ce plus réaliste que le libre-échangisme qui peut-être ne bénéficie pas vraiment à tout le monde, comme le disaient ses théoriciens ? Et cette guerre par le commerce est-elle un heureux substitut à la guerre véritable ou bien fait-elle son lit ? Bonjour Céline Spector.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à la Sorbonne et spécialiste en particulier de l'œuvre de Montesquieu. Montesquieu qui a beaucoup réfléchi aux vertus pacificatrices du commerce, mais qu'il ne faut pas non plus caricaturer, vous nous expliquerez. Bonjour Isabelle Garot.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie, vous êtes spécialiste de Marx, Karl Marx, qui se faisait peu d'illusions sur les vertus pacificatrices du commerce. Vous aussi, vous nous expliquerez. Et bonjour Maxence Brichou.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Université Paris Panthéon-Assas et auteur du livre « Le commerce et la force » paru dans la collection « Liberté de l'esprit » chez Kalman Levy en 2021, je crois.
20,
c'est bien
exactement.
Ça. Les références bibliographiques précises sont sur notre site. Alors pour commencer notre réflexion, voici les déclarations du président américain Donald Trump il y a quelques semaines, instaurant de nouveaux droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, et la réaction d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne ? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique ? Absolument. L'Union européenne nous a très mal traités.
As of this morning, the United States is applying a 25%
Depuis ce matin, les États-Unis appliquent un droit de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Nous regrettons profondément cette mesure. Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les affaires et encore pire pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ils apportent de l'incertitude pour l'économie. Des emplois sont en jeu, les prix sont en hausse. Personne n'a besoin de cela des deux côtés, ni dans l'Union européenne, ni aux États-Unis. Nos contre-mesures seront introduites en deux étapes. En attendant, nous resterons toujours ouverts aux négociations. L'Union européenne doit agir pour protéger les consommateurs et les entreprises. Les contre-mesures que nous prenons aujourd'hui sont fortes, mais proportionnées. Alors que les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars, nous réagissons par des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Cela correspond à la portée économique des tarifs douaniers des États-Unis.
On l'entend, l'Europe se trouve obligée par Trump de rompre avec les convictions libre-échangistes qui étaient présentes à sa naissance même. C'est difficile, c'est l'inspecteur, d'être obligé ainsi de tordre des principes fondateurs.
Oui, absolument. Alors avant de revenir effectivement à la position européenne, je voudrais
dire deux mots du concept de mercantilisme lui-même, puisque vous l'avez évoqué. Alors évidemment, il y a toute une réflexion sur l'unité de la doctrine, parce que ça correspond effectivement à la pratique des grands États européens, disons à partir du XVIIe siècle. Mais je voudrais quand même essayer de dégager trois éléments fondamentaux qui structurent le concept de mercantilisme. D'abord, il y a dans le mercantilisme une structure machiavélienne de l'art de gouverner. C'est-à-dire qu'en réalité, l'art de gouverner est orienté par l'art de la guerre, et le commerce fait partie de l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il s'agit, par les armes douanières notamment, eh bien, de prélever de l'argent et de l'or sur les autres nations, avec l'idée que le commerce est un jeu à somme nulle et que les gains des uns font les pertes des autres. Deuxième élément, il y a dans le mercantilisme une croyance qu'on a appelée chryso-hédonique, c'est-à-dire que les richesses qui font la puissance de l'État sont d'abord justement l'or et l'argent, c'est-à-dire finalement ces matériaux qui peuvent être tractés dans le pays et constituer un trésor de guerre pour acheter des alliances, nourrir les armées, etc.
Chryso-hédonique, vous
chryso-hédonique, voilà. Voilà. C'est justement que la richesse est faite d'or et d'argent, et les métaux précieux sont le cœur de la richesse plutôt que, par exemple, l'industrie des hommes, comme Montesquieu, par exemple, Hume vont le défendre, plutôt que le travail, si vous voulez. Et troisième élément qui est très important dans le mercantilisme, il y a l'idée d'impérialisme, alors même si le terme est anachronique, c'est-à-dire que c'est notamment par la rivalité commerciale avec l'Angleterre, la Hollande, que la France colbertiste va en quelque sorte s'imposer sur les mers, constituer une marine et puis aller conquérir des marchés grâce à des compagnies privilégiées.
Donc colonisation, impérialisme et usage des taux de change, c'est un ensemble qui politise l'économie. Il faut la faire servir à la santé politique de la nation.
Aux intérêts et à la puissance de l'État, cette puissance étant conçue à la fois comme militaire, politique et économique, les droits de douane sont l'une des armes, c'est ainsi qu'elles sont théorisées, l'une des armes avec les prohibitions, les régulations, les interdictions parfois en effet d'importation, qui en réalité structurent le commerce international. Le but, c'est d'avoir une balance commerciale positive, donc de ramener l'argent dans le trésor de guerre de l'État. Donc, à partir de là, l'Union européenne, elle s'est constituée sur un modèle qui est plutôt, effectivement, pour le dire très vite, il faudrait des nuances, celui de Montesquieu et de Kant, l'idée que en réalité, le doux commerce va pouvoir servir plutôt à, disons, une conciliation des intérêts et à une structure, disons, prospère entre les nations. Alors ça, c'est une idée très forte, par exemple, chez Montesquieu, c'est l'interdépendance entre les nations qui va, en quelque sorte, assurer la paix plus que les institutions ou plus que l'équilibre des puissances. Et donc, il y a, en effet, dans l'ADN de l'Union européenne, et avant des communautés économiques européennes, et avant de la communauté économique charbon-acier, l'idée qu'on va, par exemple, réconcilier la France et l'Allemagne. Eh bien, la production de l'acier qui servait aux armes en commun. Et donc, une fois qu'on va produire en commun les armes, on va éviter de les retourner les uns contre les autres. Et de même, la dimension internationale, effectivement, le libre-échange fait partie de l'idée qu'on va pacifier les relations internationales, précisément en faisant du commerce fondé sur une prospérité mutuelle. On passe du jeu à somme nulle à l'idée que tout le monde peut sortir, en effet, relativement gagnant grâce au mécanisme de la demande solvable. Les autres sont plus riches, ils peuvent nous acheter davantage. On peut négocier ensemble.
Maxence Brichoux, Le commerce et la force, est le titre de votre livre. Est-ce qu'en ayant tant de confiance dans le libre-échange, et d'ailleurs nous allons le voir, mais la confiance est un des enjeux valorisés par les libre-échangistes, comme si ça s'élaborait particulièrement bien quand le commerce est libre, cette confiance. Mais le fait qu'on fasse confiance théoriquement aussi, on a théorisé le libre-échange comme quelque chose d'assez formidable, qui allait pacifier les peuples et faire se rencontrer, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de naïveté? Et en ce sens, est-ce que votre livre, Le commerce et la force, ne rappelle pas qu'on ne dit pas adieu à la force si vite ?
Oui, c'est effectivement dans ce livre qui a sorti en 2021 après le premier mandat de Trump et donc qui retrouve une certaine actualité avec le second mandat. C'est vraiment de questionner ce rapport fondamentalement de l'économie à la politique. Et donc au-delà de naïveté, je pense que le terme qui convient serait peut-être plutôt d'illusion, qui serait que l'extension du marché et du droit absorberait les relations de pouvoir, en tout cas les sublimerait dans une négociation perpétuelle qui serait dans le processus contractuel entre les acteurs économiques ou le processus législatif européen. Et donc finalement que toutes les tensions seraient résorbées ou en tout cas sublimées dans un processus de négociation permanent, qui est un peu ce qui se passe à Bruxelles, qui n'est rien d'autre qu'une série de conclaves permanents entre les États, la Commission et le Parlement européen.
Conclave, le mot est adopté. multiplie.
Oui, les conclaves se multiplient, voilà. Mais Bruxelles n'est qu'une série de conclaves, y compris dans les bâtiments même du Conseil européen. Mm-hmm. Mais du coup, l'illusion fondamentale par rapport aux États-Unis, c'est de penser que c'était le commerce qui déterminait les rapports de force, alors que ce qu'on peut dire, c'est que la mondialisation qui s'achève, une certaine mondialisation qui s'achève aujourd'hui, était la projection et la conséquence de la force américaine. C'est-à-dire que, à partir de 1945, le multilatéralisme économique, FMI, Banque mondiale, le GATT qui s'est transformé en Organisation mondiale du commerce, c'est institué par les États-Unis de manière plus ou moins inclusive, donc ils associent le G7, et puis après, tout le monde a adhéré à l'OMC. La Chine en 2001, la Russie en 2008.
Oui.
Et donc, toute cette mondialisation dite libérale, régulée avec des règles, un juge international à Genève pour régler les différends commerciaux et éviter les guerres commerciales, c'était dans un cadre où les États-Unis étaient la puissance unipolaire garantissant la libre circulation, navigation et ce genre de choses, la sécurité internationale, et le fait que précisément les États-Unis, première puissance, acceptaient de se soumettre aux règles et ouvraient leur propre marché.
Mmh.
Et donc là, la double révolution dont Trump est le témoin, ou en tout cas le témoin du pivot, c'est d'une part les États-Unis sont moins dominants du point de vue de la sécurité, donc on retrouve ce dont on va parler, qui est le grand sujet qui explique le retour du mercantilisme, c'est la relation avec la Chine,
oui.
Qui est fortement accusée de pratiques mercantilistes, subventions, exportations massives, donc d'une part...
Droits de douane aussi.
Mais c'est surtout leur capacité exportatrice massive en matière industrielle qui sont critiquées. Donc il y a un changement dans la composition du système international, donc la primauté américaine est remise en question. Et dans cette circonstance, mais ce qui est aussi un classique du XVIIIe siècle, c'est que la puissance déclinante, anciennement dominante, produit un phénomène de contraction et très précisément, aujourd'hui répudie ce qu'elle a elle-même créé, à savoir le système commercial multilatéral. Et pour conclure, mais c'est assez piquant, mais pendant toutes les années 90-2000, on a critiqué l'OMC comme étant la face aimable de l'impérialisme économique américain, et aujourd'hui, c'est les Américains qui détruisent l'OMC avec des mesures unilatérales et contraires au droit international. Donc ce qui prouve bien, c'était que le système multilatéral était la prolongation de l'hégémonie américaine, qui aujourd'hui se raidit notablement face à la compétition chinoise.
Donc, merci d'assumer, au fond, l'idée qu'il y avait peut-être des illusions ou des naïvetés dans un libre-échangisme qui, par ailleurs, avait fait ses preuves, y compris à aider des peuples entiers à se développer. Mais peut-être que, quand on relit aujourd'hui, alors là, je vais m'adresser à Isabelle Garraud, spécialiste de Marx. Bon, Marx a relu tous les économistes dits bourgeois avant lui. D'Adam Smith à David Ricardo, s'est formulé l'idée des avantages comparatifs, c'est-à-dire, je simplifie, mais l'exemple est très simple. Si l'Espagne produit facilement du drap et pas du vin pardon et pas facilement du drap, et que l'Angleterre produit aisément du drap et moins aisément le vin, c'est pas la peine qu'ils produisent les deux choses, ces deux pays. Il suffit que l'Espagne se consacre au vin et l'Angleterre au drap. Alors les choses ne sont peut-être pas si simples, et le problème de la mondialisation, c'est qu'elle a fait des malheureux. Isabelle Garraud.
Oui, en effet. Alors, si on prend l'angle de Marx, qui ne connaissait pas les institutions européennes contemporaines, on a une approche, évidemment, qui est décalée par rapport à l'actualité dont on vient de parler, mais qui, néanmoins, conserve, justement, je crois, une forme d'actualité en allant chercher derrière le libre-échange, au-delà de ce qui est un discours libre-échangiste, d'une part, au-delà de ce qui est une logique commerciale aussi, également, de l'échange entre les nations, les contradictions. Alors, c'est ce qui intéressait Marx dans ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire la lecture de l'économie politique classique, mais c'est aussi ce qui intéresse les marxistes aujourd'hui dans la compréhension d'un système mondial qui est à la fois un système avec ses formes de cohésion, notamment institutionnelle, et puis un système traversé par des contradictions extrêmement fortes et des crises à des niveaux divers.
Est-ce que juste pour qu'on comprenne aussi cette notion de contradiction qui est centrale dans la réflexion sur l'histoire, ça veut dire que, du point de vue des classiques, ils n'ont qu'à échanger, les grands producteurs de vin, les grands producteurs de drap, et à la fin, grâce au commerce libre, tout le monde aura tout.
Oui.
Le tout va bien, si j'ose dire. Mais ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions, il y a des pays qui deviendront plus riches, il y a de la domination, Quels oui, sont si les problèmes que on peut, Marx
On peut
isole.
Prendre le problème autrement, si vous voulez. C'est-à-dire que pour Marx, la dimension commerciale est tout à fait importante et essentielle. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais c'est aussi un angle étroit par rapport à ce qui est une logique derrière la logique de l'échange, qui est la logique de la production.
Oui.
Et c'est là que, pour Marx, les contradictions se situent à plusieurs niveaux. Donc, si on prend entre les nations, évidemment, il y a aussi des contradictions entre des intérêts nationaux, des intérêts régionaux, des intérêts de type impérialiste, même si lui-même n'emploie pas le mot. Mais, fondamentalement, derrière, pour lui, il y a des contradictions qui sont de nature sociale, mmh. et que ces divers étages institutionnels ont aussi pour fonction de gérer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait, à un moment donné, production et reproduction aussi de rapports sociaux, qui sont les rapports sociaux du capitalisme. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans une actualité aujourd'hui qui est marquée par ces tensions très très fortes. Hein. On entend Trump, on entend von der Leyen, et on voit bien évidemment là qu'il y a des intérêts divergents. Mais ces intérêts divergents repose aussi sur des luttes de classe qui sont extrêmement fortes, oui. et qui sont pas simplement des oppositions nationales entre les intérêts d'une nation et les intérêts d'une autre nation. Par exemple, le discours de Trump, je ne sais pas s'il relaye un discours mercantiliste, mais en tout cas, à l'évidence, il relaye aussi les tensions qu'il peut y avoir dans le capitalisme américain entre des fractions du capital qui n'ont pas exactement le même intérêt. Un capital américain, un capital qui s'est plutôt tourné vers l'exportation, et puis des différences d'approche qui sont liées à ça. Donc, je crois que, justement, en associant la dimension sociale à la dimension économique et à la dimension politique, sans rabattre ni les unes ni les autres sur ce qui serait une base économique, c'est pas le propos, ben on a une approche justement en termes de contradictions, qui repolitise la question du libre-échange et qui l'ancre dans la question de l'exploitation du travail et des différentes formes de domination qui font cortège.
Est-ce que ce que Marx appelle dans le capital la baisse tendancielle du taux de profit, qui fait que le capitalisme est obligé de ponctionner beaucoup, d'être dur pour continuer à profiter, puisque le profit est l'enjeu même du capitalisme, est-ce que ça contribue pour lui, vous qui en êtes une spécialiste, au fait que le commerce naturellement se tend, les libéraux qui nous disent que on va négocier, ça va bien se passer, ce n'est pas possible s'il y a une baisse tendancielle du taux de profit.
En l'occurrence, dans le contexte contemporain, le taux de profit a été, ces dernières décennies, un élément extrêmement important dans les politiques américaines et européennes. La crise des années 70 a été marquée par une baisse du taux de profit, et à partir de là, des constructions institutionnelles qui ont visé à rétablir ce taux de profit, qui passait aussi par le rétablissement du pouvoir des classes dominantes sur la société. Je veux dire par là que, évidemment, ces constructions ne sont pas neutres, elles ne sont pas simplement les instruments d'une domination de classe, mais elles sont évidemment aussi liées à ces rapports sociaux et à ces rapports sociaux violents. Donc Marx, à son époque, avait conscience de cela. Et aujourd'hui, évidemment, les États-Unis d'un côté et la construction européenne de l'autre visent aussi ce rétablissement d'une classe de capitalistes qui a du mal à rétablir un taux de profit. Et ça passe aussi par des tensions internationales, bien évidemment, par des oppositions structurelles entre ces différents niveaux d'organisation du monde capitaliste.
Alors, est-ce que négocier dans le domaine du commerce de manière libre, même s'il y a des frottements, ne produit pas fondamentalement de la confiance, d'autant que grâce au libre-échange, la confiance est déjà presque un prérequis, elle est déjà là, il y a quelque chose d'important, nous disent les libre-échangistes. Dans ce rapport de confiance, écoutez précisément Jean Monnet, qui était le haut-commissaire au plan en 1951, dans les négociations pour créer la communauté économique du charbon et de l'acier. Il en deviendra d'ailleurs le président à partir de 1952. Le mot confiance est au cœur de son discours sur le marché européen.
Le plan Schuman de mise en commun du charbon et de l'acier a été paraphé ce matin au Salon des Beauvais, au Quai d'Orsay, par les chefs des délégations des 6 pays qui viennent de conclure leurs travaux commencés au mois de juin de l'année dernière. Après le paraphe des documents, les diplomates ont offert une réception à la presse et M. Monnet, au commissaire au plan, a bien voulu nous dire quelques mots.
Ces documents comprennent un projet de traité instituant une communauté européenne du charbon et de l'acier. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que les délégations ont terminé leurs travaux par un accord paraphé sans réserve, dans une confiance mutuelle et après 9 mois de rapports quasi journaliers de bonne humeur, ce qui est rare. nous tenons à attirer votre attention sur trois points essentiels. Le caractère supranational de la communauté européenne du charbon et de l'acier. La création d'un marché de 150 millions de consommateurs. Enfin, l'élimination des pratiques restrictives des cartels et des concentrations excessives de puissances économiques. Il s'agit là d'un changement fondamental dans la nature des relations entre les pays d'Europe, de la forme nationale qui les opposait et les divisait à une forme supranationale qui les rapproche et les unit. Ni droit de douane, ni contingent ne s'opposeront plus à la circulation du charbon et de l'acier à l'intérieur du territoire formé par les six pays.
Maxence Brichoux, c'est votre sujet exactement, le problème de la confiance. Si le commerce ne génère pas de la confiance ou s'il n'y a pas de confiance au départ, la force va revenir encore plus vite. Est-ce que vraiment l'enjeu de la confiance vous paraît central et fait que c'est la notion clé pour penser la négociation commerciale?
Je pense que ce qui est intéressant dans cet extrait et un peu ce motif de la construction européenne depuis l'origine, depuis 1950, c'est cette idée que l'un des intérêts du commerce, c'est que c'est pas un enjeu que des États. Et donc c'est justement le mercantilisme lie tous les sujets, en disant que le commerce est un sujet politique, un sujet de haute politique,
oui.
Alors que l'art de la construction européenne, c'est bien l'idée de dépasser la haute politique pour créer des relations transnationales entre les individus, entre les sociétés, entre les peuples. Donc il y a ce côté un peu de sociologie internationale qui est que le commerce, c'est aussi tout le monde, c'est nous, quand on achète un bien importé qui vient de Chine ou d'ailleurs, il y a quelque chose de plus que la haute politique, ça la dépasse, ça la contraint aussi, puisque précisément tout le sujet c'est de contraindre les potentialités de conflit en dépassant cette haute politique, en créant des liens interpersonnels et sociaux. Et là, j'aurais vraiment deux commentaires assez simples à faire.
Mais bien sûr,
c'est,
allez-y.
Du point de vue de l'Union européenne, ce qui est intéressant, c'est... Bon, il y a tous des débats sur quel est le niveau d'intégration du marché intérieur, mais on est quand même allé très loin jusqu'à créer une monnaie unique. Mais il n'est pas très sûr que les sociétés européennes se soient vraiment intégrées. Finalement, quand on regarde les opinions entre la France, entre l'Allemagne, sur des questions assez majeures comme le nucléaire civil ou ce genre de choses, il n'est pas sûr que le commerce et l'intégration du marché européen aient tant que ça contribué à l'intégration des sociétés et des, ce qu'on appellerait culture, ou pour reprendre un terme de Montesquieu, les mœurs européennes. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mœurs européennes ou différentes mœurs nationales qui cohabitent au sein du marché intérieur et au sein de la monnaie unique? C'est déjà une première question. Et deuxièmement, et ça nous permettra d'envisager des sujets plus philosophiques, mais d'où vient l'idée? Je voudrais juste vous soumettre une toute petite citation, mais je pense que cette idée de la confiance par le commerce et l'échange, la première fois qu'on la trouve, c'est chez Voltaire, quand il va en Angleterre, et dont il revient avec les lettres philosophiques, les lettres anglaises, et il rend compte de la Bourse de Londres, et juste c'est vraiment très court, je cite, « Entrer dans la Bourse de Londres, là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion, et ne donnent le nom d'infidèle qu'à ceux qui font banqueroute. » Et donc, il y a vraiment cette idée... Donc, à l'époque, c'était les différences religieuses, alors qu'en 1950, c'est les différences nationales après la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Mais il y a vraiment cette idée que le commerce, mais aussi la finance, enfin, voilà, toutes les relations capitalistes vont permettre de transcender les divisions politiques, religieuses et nationales. Et donc, c'est vraiment... c'est au cœur, je pense qu'on va y venir, c'est au cœur du projet des Lumières.
C'est maintenant.
C'est les espoirs politiques mis dans ces relations sociales qui transcendent la politique et les divisions.
Alors, c'est vrai qu'on a choisi Montesquieu. Je crois qu'on a eu raison quand même, ces spectateurs. C'est vraiment, sur
toujours
le plan théorique,
oui,
celui qui a offert l'analyse la plus conceptualisée, peut-être, de l'importance du commerce pour la paix entre les individus et les peuples. Néanmoins, c'est l'histoire d'un siècle, d'une réflexion d'un siècle, le 18e, autour de ce point qui se retrouve concentré là chez Montesquieu, c'est l'inspecteur.
Oui, alors je crois qu'on va entendre le texte, mais je voudrais quand même insister sur l'originalité de Montesquieu dans son approche de ce qu'on a appelé le doux commerce, hein, même si l'expression n'est pas comme telle dans l'esprit des lois. En réalité, ça faisait très longtemps que l'on disait que le commerce allait tendre un peu à pacifier les relations internationales, parce que quand on est en guerre, on fait mal du commerce, et donc, disons, les commerçants ont intérêt à la paix pour pouvoir négocier, pour pouvoir commercer. Mais Montesquieu est très original, et il est notamment par rapport à deux grandes figures de son son temps, l'abbé de Saint-Pierre et Jean-François Melon. Alors, ils sont un peu oubliés aujourd'hui, mais ils avaient vraiment pignon sur rue à l'époque. Oui. Alors, que disait l'abbé de Saint-Pierre dans le projet de paix perpétuelle, hein, qui va tant inspirer le XVIIIe siècle? Eh bien, il va dire que les États qui fleurissent par le commerce sont bien plus disposés à faire durer la paix. Hein, donc on a vraiment cette idée d'un intérêt à la pacification. Melon, de son côté, dans son essai politique sur le commerce, dit « l'esprit de conquête et l'esprit de commerce s'excluent ». Et donc, en réalité, la balance des forces en Europe, le fait qu'on ne va pas reconstruire une hégémonie de puissance un peu, disons, comparable à celle des Romains sur l'ensemble de l'Europe, eh bien, cette balance des forces va aussi permettre, avec le commerce, de pacifier les relations. Alors, Montesquieu, il va beaucoup plus loin que ces deux auteurs. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, ce sont les potentialités inhérentes à l'économie elle-même qui vont, en réalité, contribuer à cette pacification. Et il évoque, hein, très brièvement, deux mécanismes fondamentaux. D'un côté, le commerce, c'est pas seulement les transactions marchandes, les échanges de biens. Le commerce, c'est plus généralement les échanges culturels. Mmh. Et pour Montesquieu, l'histoire du commerce, hein, qu'il retrace avec soin, l'histoire notamment des navigations en haute mer, eh bien, c'est une histoire de la culture. Et c'est l'un des premiers à citer, par exemple, le portugais Camoens comme, en fait, quelqu'un de central dans cette histoire de la culture. Et, alors, on appellerait ça aujourd'hui de la mondialisation, oui, en tout cas de la découverte d'autres cultures grâce à la navigation au long cours. Donc ça, c'est le premier point. Le commerce fait partie d'une stratégie d'éducation. Les peuples, alors c'est la théorie, hein, sont censés se connaître. Et comme pour Montesquieu, c'est le grand credo des Lumières, les connaissances rendent les hommes doux, eh bien, on peut espérer qu'il va y avoir une baisse de la férocité, de la xénophobie, de la haine de l'autre, à mesure que les peuples se rencontrent et finalement échangent culturellement. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est beaucoup plus économique, celui-là, qui repose sur la demande solvable. C'est l'idée selon laquelle, bah, pour bien commercer, on a besoin de gens qui nous achètent des marchandises et donc qui sont prospères aussi. Et donc, l'idée, c'est que
prospérité,
finalement...
enrichissement de tout le monde, donnant-donnant ou gagnant-gagnant, comme on a
voilà.
dit parfois.
Et c'est l'idée qu'on va substituer à la logique de la prédation, la logique ami-ennemi, donc par le pillage, le brigandage, on va substituer une logique de la négociation qui va transformer les ennemis de jadis eh bien, en partenaires commerciaux. Alors Montesquieu n'est pas du tout naïf. Il sait que effectivement, c'est la rivalité, la guerre commerciale qui domine dans le monde. Il sait que les rivalités coloniales ravagent le monde. Il dit même, hein, je me permets cette citation parce qu'elle est un petit peu oublié que, en réalité, l'Europe a été le tyran des trois autres parties du monde en faisant le commerce. Et il dit, en Europe, l'Angleterre, la France et la Hollande, qui ont fait le commerce de l'Europe, ont été les trois tyrans de l'Europe et du monde. Hein, donc ça, il le dit dans ses pensées inédites. Mais il est tout à fait clair sur le fait que, par exemple, l'Angleterre, dont il a été question à l'instant, en fait, elle est souverainement jalouse de ses intérêts. Et donc, elle se défend contre d'autres nations comme s'ils étaient presque, justement, aussi ses ennemis. Et que ces lois sur la navigation sont en réalité extrêmement rigides. Ce qui fait que Montesquieu pense déjà le décalage, on pourrait dire, entre ce qu'on pourrait appeler les principes du doux commerce, ce qui relève, on pourrait dire, d'un espoir, et puis la réalité des rivalités coloniales qui sont en réalité extrêmement dures.
Donc
il en a parfaitement conscience.
C'est au moins autant un idéal qu'une réalité qu'il dépeint. Il souhaiterait qu'on aille plus loin dans ce qu'il appelle les mœurs douces. Partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Mais il voit bien que la réalité est peut-être un peu plus complexe. En tout cas, ce que je viens de citer est dans le premier chapitre du livre 20. Nous allons entendre maintenant un extrait de Montesquieu, l'Esprit des lois, donc de 1748, livre 20, chapitre 2.
L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. Et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. Mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d'un côté au brigandage, et de l'autre à ces vertus morales qui font qu'on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité et qu'on peut les négliger pour ceux des autres. la privation totale du commerce produit au contraire le brigandage, qu'Aristote met au nombre des manières d'acquérir. L'esprit n'en est point opposé à de certaines vertus morales. Par exemple, l'hospitalité, très rare dans les pays de commerce, se trouve admirablement parmi les peuples brigands.
L'esprit du commerce libre, nous dit Montesquieu, n'est point opposé à de certaines vertus morales. Néanmoins, c'est l'inspecteur, Montesquieu ne dit pas que le commerce libre moralise, rend les êtres humains plus moraux, c'est
oui,
ça. Pouvez-vous préciser cette nuance?
Bien sûr, je crois qu'il faut faire très attention. Montesquieu dégage à la fois les effets bénéfiques et les effets nocifs, toxiques du commerce. Hein, lorsqu'il dit l'esprit de commerce est désormais l'esprit de l'Europe, il voit à la fois vraiment, avant Rousseau, hein, tout ce qui est dangereux et peut-être délétère dans la conquête du commerce et le fait que l'économie prend de plus en plus d'importance dans les sociétés modernes. Et en particulier, il est très ambivalent sur les effets du commerce sur les vertus et les vices des hommes. Hein. Là encore, Rousseau est un très grand lecteur de Montesquieu et il le reprend parfois littéralement. C'est-à-dire qu'en réalité, la montée en puissance des échanges produit cet esprit de justice exacte qui fait que, effectivement, dans une relation d'interdépendance, voilà, on a intérêt de vendre, on a intérêt d'acheter, tout se vend sur la base d'une équivalence et donc les hommes calculent. Hein, c'est le règne de ce qu'on va appeler l'homo economicus, tout simplement. Et donc Montesquieu, qui est quand même un aristocrate, voit ça avec une pointe d'inquiétude, c'est-à-dire la disparition de l'hospitalité, la disparition de la générosité, la disparition de l'éthique chevaleresque, tout ça rend les hommes un peu mesquins, un peu sordides. Et d'ailleurs, dans ses notes de voyage, quand il va en Hollande, il est extrêmement choqué par le fait qu'il ne trouve finalement que assez peu d'humanité dans les rues. Hein. Il demande la rue et il demande son chemin et on ne lui dit pas parce que voilà, c'est un service gratuit. Et donc en réalité, il faut vraiment pas se tromper. Montesquieu nous dit que le commerce tend à pacifier les relations internationales, du moins sur le long terme, mais pas du tout à moraliser les peuples. Hein. Et il ne pense absolument pas que le commerce va perfectionner les mœurs des peuples modernes. Hein, il dit, en fait, le commerce perfectionne les mœurs des peuples barbares, mais pas du tout des peuples qui seraient d'ores et déjà, entre guillemets, policés. Donc voilà, je crois qu'il faut faire très attention à ça, notamment parce que Montesquieu, en France, a finalement une vision de l'Angleterre assez ambivalente, et il voit notamment qu'en Angleterre, les rapports sociaux sont très durs, que la sociabilité diminue, que le lien social est fragilisé et que la société de cour qui a créé toute une sociabilité des salons, eh bien finalement, est absente hein, dans le pays qui incarne par excellence, on pourrait dire, l'esprit de commerce.
Maxence Brichou.
Oui, je pense que c'est vraiment extrêmement important déjà de voir que ce n'est pas une doctrine. Il y a un côté un peu sociologique de « il faut prendre acte de la nouveauté historique du XVIIIe siècle » qui est cette expansion mondiale du commerce et des effets importants qu'il a sur tous les niveaux de la société. Et après, ça nous conduit à Marx, qui pointe le phénomène total qu'est le capitalisme. Après, il y a vraiment une question d'interprétation philosophique, c'est quelle est la normativité, en fait. Est-ce que, voilà, tout ce qu'a dit l'inspecteur est vrai, il y a des plus, il y a des moins, mais je pense vraiment qu'il y a une ligne argumentative un peu implicite, qui est que Montesquieu assume le commerce dans toutes ses dimensions, y compris dans cet affaiblissement moral, dans le fait que le commerce a des effets moraux un peu négatifs. Et voilà, c'est l'interprétation de Léo Strauss qui dit que quand même l'esprit des lois assume que la nation moderne est commerçante et donc elle n'a plus besoin d'être vertueuse. Je lis avec Strauss l'esprit des lois comme étant comme une réfutation de la cité antique, qui, dans les modèles, alors qui n'est pas la cité antique réelle, athénienne ou romaine, qui était extravertie, mais chez Platon, Aristote, est fondamentalement une société autarcique, en particulier pour des raisons morales, puisque c'est dans une société autarcique, avec des mœurs unifiées, qui vit pour elle-même, qu'on peut développer un projet politique d'élévation spirituelle et morale des humains. Et donc, pour moi, de l'esprit des lois est une réfutation directe des lois de Platon, qui sont d'ailleurs régulièrement citées en note de bas de page, au sens où Montesquieu voit tous les effets négatifs, mais acte que la société moderne n'a plus d'idéal moral pour les individus, et que certes, bah, tout le monde va être un peu calculateur, un peu self-interest, homo economicus.
C'est la grande angoisse de Tocqueville.
C'est la grande angoisse de Tocqueville.
Quelques décennies plus tard, qui dira, voilà, oui. Quand en plus, c'est très difficile la démocratie, il y a un doute terrible qui sont, puisque tout oui. est possible en termes d'idées, etc. Et là, une des boussoles, outre l'opinion majoritaire qui permet à tout le monde de se ranger derrière quelque chose, l'autre danger, c'est le règne des intérêts matériels.
Oui.
C'est la boussole de chacun et il en est très chagriné.
Oui, mais du coup, Montesquieu est vraiment... oui, je pense que ça nous amène à Marx. Il y a une sorte de philosophie de l'histoire qui n'est pas totalement assumée, mais il y a un argument de l'irréversibilité.
Oui,
on est devenu moderne. Voilà, oui. On peut le regretter, ou en tout cas, on peut trouver que c'est pas unanimement positif,
mais c'est vers là qu'on va,
et il y a une sorte d'irréversibilité historique dans cette moralité faible et dans le mouvement de l'égalité qu'on trouve chez Tocqueville.
Isabelle Garraud.
Oui, alors je trouve que c'est très intéressant cette discussion autour de Montesquieu, parce qu'on en voit à la fois une forme d'actualité, disons, par rapport à la question de la modernité qui vient d'être évoquée, et puis aussi le décalage par rapport à des réalités qu'il ne connaissait pas. Et je voudrais revenir un instant sur deux termes qui me semblent absents de notre débat et qui sont nécessairement aussi absents de la réflexion de Montesquieu à l'époque, puisque là on est en train de discuter d'une logique qui se situe à un niveau national ou international, et puis une logique qui se situe à un niveau individuel, qui est celle de la moralité des échanges.
Oui.
Il y a un niveau entre les deux. On pourrait dire qu'après tout, l'originalité de Marx est d'aller cibler ce niveau entre les deux, qui est le niveau proprement social de l'exploitation et de la manière dont cette exploitation va se transformer entre l'époque féodale et l'époque moderne. Et là, il y a pour nous quelque chose qui est extrêmement important, qui est cette logique d'un marché du travail. Voilà. L'échange marchand, l'échange commerçant, c'est pas seulement, ou c'est peut-être même pas d'abord d'ailleurs un échange entre des nations qui commercent, c'est pas forcément non plus cette idée qu'il y aurait des consommateurs qui achètent des biens ou qui en vendent, en tout cas qui achètent quand ils sont consommateurs, et c'est aussi l'idée que la marchandise par excellence, la marchandise capitaliste par excellence pour Marx, ça va être la force de travail. Et pour lui, la logique de la modernité s'organise autour de cette vente et de cet achat de la force de travail, qui est un commerce absolument pas pacifiant, qui est en un sens une forme d'organisation institutionnelle à travers le contrat, donc on sort du servage, on va en reparler peut-être dans un instant.
Dans un instant, je vous promets.
Mais on entre néanmoins dans un rapport de force, et les institutions sont aussi le lieu, les institutions les plus orientées vers le commerce, sont aussi le lieu de l'organisation institutionnelle de ce rapport de force. Et si on vient aux institutions européennes sous cet angle-là, c'est assez intéressant de voir que, entre le discours de Jean Monnet, qui est d'ailleurs centré sur les consommateurs, hein, sur le bien des consommateurs et sur la paix en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, est aussi la mise en place d'institutions économiques, donc du charbon et de l'acier, et puis la mise en place d'institutions politiques, qui quand même, il y a assez peu de temps, vont conduire à l'écrasement du pouvoir en Grèce, qui essaye de mettre en place d'autres politiques sociales que celles qui sont imposées par cette logique européenne. Et donc le terme aussi, le deuxième terme qui me semble manquer dans notre débat, outre celui de la question du travail et du salariat, c'est la question du néolibéralisme, qui n'est ni le libre-échange, qui n'est pas non plus le mercantilisme, mais qui est un rapport social. Et un rapport social qui va, au niveau européen, mais aussi au niveau américain, mais aussi au niveau chinois, passer par les mêmes logiques de destruction des acquis sociaux, destruction des services publics, de remarchandisation. Et extérieurement, disons un petit peu superficiellement, on peut voir ça comme une extension du commerce. Mais derrière cela, ce sont de nouveaux rapports de force, y compris guerriers. D'ailleurs, le monde aujourd'hui n'a jamais été le foyer d'autant de guerres et d'affrontements et de ventes d'armes. La France est un des premiers exportateurs d'armes ou de matériel militaire. Donc, qui montre aussi la façon dont s'imbriquent ces réalités d'une manière qui est profondément contradictoire et, je dirais, profondément inquiétante aussi pour les temps qui viennent.
Le commerce est-il pacificateur ou dangereux, abritant une guerre bien plus grave que celle qu'auraient vu des figures comme Montesquieu? Je suis en compagnie d'Isabelle Garraud, spécialiste de Marx, Céline Spector, spécialiste de Montesquieu. Je ne vous réduis nullement à ces spécialités, vous avez beaucoup d'autres champs de recherche, ainsi que Maxence Brichoux, auteur d'un livre qui s'appelle « Le commerce et la force ». Le problème que vous soulevez là, Isabelle Garraud, c'est que effectivement, si le commerce ne nous rend pas tellement plus moraux. Montesquieu avait quelques doutes. Il pensait tout de même que ça pacifiait nos rapports internationaux. Pour Marx, tout ça est problématique parce qu'il y a une force de travail qui se vend à chaque fois qu'on produit quelque chose, et il y a toujours des gens qui se font avoir. La sortie de la société féodale a certes libéré les échanges. On peut vendre sa force de travail, devenir salarié, mais ça produit de la domination. Écoutez cet extrait du livre 1 du Capital, donc 1867.
La structure économique de la société capitaliste est issue de la structure économique de la société féodale. C'est la dissolution de cette dernière qui a libéré ces éléments. Pour devenir libre vendeur de sa force de travail, portant sa marchandise partout où elle trouve un marché, il fallait que le travailleur se soit dégagé de la domination des corporations, de leur réglementation sur l'apprentissage et le compagnonnage, et des entraves des prescriptions qu'elles imposaient au travail. Le mouvement historique, qui transforme les producteurs en ouvriers salariés, apparaît ainsi, d'un côté, comme leur affranchissement de la servitude et de la loi des corporations. Et c'est ce côté seul que retiennent nos historiographes bourgeois. Mais de l'autre côté, ces affranchis de fraîche date ne deviennent vendeurs d'eux-mêmes qu'après avoir été dépouillés de tous leurs moyens de production et de toutes les garanties qu'offraient pour leur existence les anciennes institutions féodales. Et l'histoire de cette expropriation est inscrite dans les annales de l'humanité en caractère de sang et de feu. Quant aux capitalistes industriels, ces nouveaux potentats, ils ont dû écarter non seulement les maîtres de métier des corporations, mais aussi les seigneurs féodaux qui étaient en possession des sources de richesse. Sous cet aspect, leur ascension se présente comme le fruit d'une lutte victorieuse contre la puissance féodale et ses privilèges révoltants, ainsi que contre les corporations et les entraves qu'elles avaient mises au libre développement de la production et à la libre exploitation de l'homme par l'homme. Toutefois, le point de départ de ce développement est là encore la servitude du travailleur. Tout le processus a consisté en un changement de forme de cet asservissement, en la transformation de l'exploitation féodale en exploitation capitaliste.
Karl Marx, qu'on entend dans ce texte, Isabelle Garonneux, n'a pas de nostalgie du tout pour la société féodale, mais il veut juste dire qu'en libérant les individus, en en sortant, on les a mis sur des marchés, ils peuvent négocier plein de choses, y compris leur salaire, la manière dont ils vendent leur force de travail, mais ça n'a pas produit que de la liberté. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, absolument. Alors, pour Marx, là aussi, il faut prendre les choses dans toute leur complexité, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, le fait de devenir salarié est une libération. C'est une libération parce que la forme du contrat salarial, qui est un contrat inégal, hein, bien évidemment dissymétrique entre l'employeur et l'employé, est néanmoins un contrat qui permet d'échapper à des formes de prédation directe de la richesse, de l'esclavage par exemple, tout ce qui dans le monde colonial va être la condition aussi de l'instauration du salariat dans une autre partie du monde. Mais le salariat lui-même présente un certain nombre de protections par rapport à des formes anciennes. Et typiquement pour Marx, dans le féodalisme, il y a justement ces formes d'accaparement direct qui sont vouées à disparaître avec la montée du capitalisme. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est ce que dans le marxisme, on appelle la question de la transition, qui va donner lieu à de très longs débats entre historiens, économistes, marxistes et non-marxistes d'ailleurs, pour savoir comment la décomposition du monde féodal s'effectue et comment elle donne naissance à des formes sociales nouvelles. On l'entend, c'est la notion de forme qui importe à Marx. Forme sociale, forme politique et forme économique. Et là où évidemment la question de l'égalité est contrebalancée par son exact contraire, l'asservissement et la servitude, c'est que dans cette montée d'un certain type d'égalité se joue aussi de nouvelles formes d'exploitation et d'asservissement. Et dans le contrat de travail pour Marx, le fait de vendre sa force de travail n'est pas une vente d'abord d'égal à égal, et puis c'est une vente qui va s'associer à l'aliénation, à l'exploitation, à des formes de domination extrêmement violentes, et donc qui porte en elle aussi cette violence. Et violence première pour Marx, c'est la dépossession. Dépossession qui va être à la fois individuelle et collective, dépossession des moyens de production, dit-il, donc des individus qui ne sont plus en capacité de produire par eux-mêmes de façon indépendante, comme les petits producteurs d'antan l'étaient, puis dépossession plus collective aussi avec ces fameuses ces caractères de sang et de feu qu'il évoque dans le texte et qui désignent ce qui est cette gigantesque ce moment d'expropriation qui va se jouer notamment, mais pas seulement en Angleterre, hein, dans la vie rurale, avec l'appropriation privée des communaux, des terrains communaux, qui permettaient à des petits producteurs d'avoir une forme d'autonomie. Et cette expropriation gigantesque qui va conduire à la création de la classe ouvrière anglaise va aller de pair avec l'extrême violence de ces nouveaux rapports sociaux, de gens qui vont ensuite dans les usines travailler à mort, hein, et travailler dans des conditions. Marx met parfois en relation l'esclavage ancien et l'esclavage moderne en montrant que, du point de vue de la violence subie, le deuxième n'est pas toujours enviable. Donc on a toujours cette lecture en termes de contradiction, et cette lecture aussi en termes de contradiction sociale qui, pour Marx, doit être un axe de compréhension de toutes les formes, c'est-à-dire aussi bien des formes politiques nationales, des formes internationales, et puis de ce qui est la contrepartie de la montée du salariat, à savoir le pillage. Hein, pour échanger, pour commercer, il faut avoir des richesses. Ces richesses, elles viennent du travail humain, mais elles viennent aussi de la nature. Hein, pour Marx, c'est à la fois la terre et le travailleur, comme il le dit. Donc, pillage des ressources naturelles, pillage du travail humain gratuit sous la forme de l'esclavage, colonisation et son extrême violence, les lettres de feu et de sang dont il parle, c'est ça aussi. Et puis, à côté de cela, évidemment, les formes salariales.
Bon, alors, on essaie toujours, aujourd'hui, de faire dialoguer des auteurs qui ne sont plus là, qui n'ont pas écrit au même siècle, mais c'est quand même difficile pour Montesquieu de répondre à une attaque si profonde. La négociation, le commerce, c'est pas du tout les mœurs douces pour Marx. Maxime Brichoux, vous vouliez intervenir, je vous voyais là.
Non, mais pour réagir à ce qu'il vient de dire, que c'est très important, oui, et vraiment deux commentaires plus d'actualité. D'une certaine manière, Montesquieu est dépassé parce qu'il voit vraiment le commerce comme une sorte de force autonome, un peu sous-jacente et émergente. Alors c'est, je pense, ce à quoi renvoie ce concept de néolibéralisme, mais il faut bien voir, ça renvoie à ce que je disais sur le rôle des États-Unis, c'est que le commerce depuis 1945, il a été institué, c'est-à-dire qu'il a des règles, il a du droit international, essentiellement l'Organisation mondiale du commerce, tout un système de juridiction, et donc déjà toute la mondialisation du XXe siècle et du premier XXIe siècle, si on peut dire comme ça, on ne faisait pas suffisamment confiance au commerce par lui-même qu'on ne se soit pas senti obligé de faire tout un appareil juridico-politique pour l'organiser et pour régler les différends. Et donc l'OMC, d'ailleurs, n'est pas tant que ça une organisation néolibérale ou favorable au libre-échange percé, parce que ça repose sur le consensus, et c'est l'aboutissement de négociations, d'ailleurs assez pénibles, à Genève, entre tous les pays. On a fait des règles de droit, donc encore une fois, depuis 1945, le commerce a été institué, et il est le fruit d'une volonté politique. Voilà, on parle des Européens,
Donc il y a des correcteurs.
Voilà, exactement.
Même si sans doute Marx n'entendrait pas tout à fait.
Voilà, et après il y a eu des évolutions. Le GATT de 1960 n'est pas l'OMC des années 90, où il y a eu une grande expansion, ne serait-ce qu'avec la Chine. Et juste un point important, c'est, je voudrais vraiment signaler juste l'actualité du texte de Marx, si on l'applique à ce qui se passe avec le secteur du numérique, et ces nouveaux potentats, pour reprendre le terme qu'utilise Marx, que sont les big tech. C'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase de transformation du capitalisme. Alors voilà, ça nous emmènerait très loin, probablement au-delà de notre champ de compétences, mais quand même, où pour reprendre des termes marxistes, les forces de production évoluent, de l'industrie, des services, de l'industrie, les services financiers et maintenant la big tech, et qu'aujourd'hui, finalement, cette fusion entre l'économie et la politique qu'on observe avec Trump et les big tech, c'est une sorte de conséquence de la mutation du capitalisme. Et donc les forces de production déterminent plus que jamais les rapports de production. Et nous sommes peut-être moins des salariés exploités aujourd'hui que des fournisseurs de données personnelles qui sont ensuite utilisés pour entraîner les algorithmes. Donc le capitalisme évolue.
C'est l'inspecteur.
Oui, moi, je voudrais revenir sur la question de la violence et du rapport entre commerce et violence. Parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Isabelle Garraud. Et Montesquieu ne pouvait pas soupçonner les logiques d'exploitation de la révolution industrielle. Il ne s'agit pas du tout de, ni de lui reprocher, ni de lui porter un crédit qu'il ne peut pas avoir. Mais en revanche, je pense qu'il était très, très, très sensible à la question de la violence politique. Oui. Et la manière dont il posait le problème de la violence à l'époque, c'était finalement comment, paradoxalement, le commerce, le crédit, la finance, la déterritorialisation du capital, la mobilité de la richesse, qui est portée notamment par les nouveaux instruments du crédit comme la lettre de change, peuvent nous permettre de déjouer certains effets de la violence politique. Et donc Montesquieu, son souci principal...
Et de la violence sociale, parce que c'est ça le sujet.
Non, alors voilà, la question de la violence sociale, clairement, il ne la pose pas ici. Mais je voudrais revenir donc sur la violence politique, parce que ça a son importance aujourd'hui, où on voit que les processus d'autocratisation ont lieu partout dans le monde. Et où la logique de la souveraineté absolue, qu'on croyait pourtant révolue, en réalité revient sur le devant de la scène politique à une vitesse frappante aux États-Unis qui est en train de basculer. Les États-Unis sont en train de basculer dans une dictature, la Turquie est en train peut-être de prendre un pas tout à fait analogue. Et donc, si vous voulez, on se trouve au moment où Montesquieu se trouvait quand même au XVIIIe siècle, c'est-à-dire face au problème de l'arbitraire, de l'abus de pouvoir, problème qu'aujourd'hui on appelle le problème de la dictature et qu'il appelait celui du despotisme. Et ce qui l'intéressait dans le commerce, c'est la manière dont, en réalité, par ses ruses, par sa mobilité, eh bien, il pouvait contribuer à aider les individus ou les groupes sociaux à échapper à la prise du pouvoir, à la capture du pouvoir politique. Et il était très sensible, notamment, aux persécutions des Juifs. Et on a de très très beaux textes qui ont été relevés, notamment par Albert Hirschman, qui est le premier à avoir mis la question du doux commerce sur le devant de la scène intellectuelle, précisément parce que Montesquieu nous dit que c'est grâce à la lettre de change que les Juifs ont pu échapper à certaines persécutions et le commerce sortir de ce qu'il appelle la barbarie médiévale. Hein. Et donc, il fait notamment le récit des tortures atroces qui étaient infligées aux Juifs à l'époque. Et je voudrais juste vous lire une toute petite citation de Montesquieu qui révèle un peu son approche, voilà, comment le commerce élude la violence, comment il la contourne sans pouvoir, évidemment, lutter frontalement contre elle.
Et ce sera, hélas, votre dernier mot.
C'est parfait. C'est au livre 21, L'Esprit des Lois. Montesquieu écrit, le commerce, tantôt détruit par les conquérants, tantôt gêné par les monarque, fuit d'où il est opprimé, se repose où on le laisse respirer. Il règne aujourd'hui où on ne voyait que des déserts, des mers et des rochers. Là où il régnait, il n'y a que des déserts.
J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux. Je ne les vends pas bien cher, quelques sous, quelques sous, quelques sous. J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux. Ils n'ont traversé la mer que pour vous, que pour vous, que pour vous. Vous emporterez chez vous tous les bouquets, les senteurs que nous apporte la houle, les matins chargés de fleurs. Vous emporterez aussi mille grappes de soleil qui scintillent à l'infini sur les branches de leur éveil. Et moi, sur un bateau tout blanc, j'irai là-bas, paré d'or et d'argent. Et là, j'écouterai en rêvant, pour moi, crier tous les marchands. J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux. Pas bien cher, quelques sous, quelques sous, quelques sous. J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux. Ils n'ont traversé la mer que pour vous, que pour vous, que pour vous. Vous emporterez chez vous un reflet de l'océan qui danse devant la proue.
Vous aurez mesuré la surprise. Peut-être l'effet comique d'Alida, marchande de fruits, douceur du commerce et des petites négociations commerciales, 1958. Et oui, après Montesquieu et Marx, on a mis Dalida, on a fait ça. Merci Isabelle Garraud, Céline Spector et Maxence Brichou. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose d'écouter à présent la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à l'histoire. Voici le pourquoi du comment.
comment se situe-t-on dans l'histoire? Les êtres humains n'ont pas besoin de l'histoire seulement pour comprendre ce qui leur arrive de l'extérieur, ce que les autres font et qui parfois, en effet, nous affecte de manière tragique. Bien sûr, quand une guerre se déclare et que nous en sommes spectateurs, nous avons profondément besoin de l'histoire. Nous avons besoin de comprendre des causes qui expliquent cet événement dans le passé. Et parmi ces causes, il y a les représentations que les êtres humains qui produisent ces actes se font d'eux-mêmes. Il y a donc besoin d'une histoire objective, des représentations historiques, elles-mêmes des êtres humains, des représentations subjectives des autres. Mais l'histoire, ça n'est jamais seulement celle des autres. L'histoire, c'est bien entendu aussi une manière de se situer soi-même dans le temps. C'est un besoin anthropologique fondamental, celui qui renvoie au fait de raconter des histoires. C'est d'abord le besoin de se situer par rapport à des événements négatifs, par rapport à des dangers qui nous font traverser notre vie et par laquelle nous avons besoin de nous situer, nous autres êtres humains qui nous représentons la mort et les autres catastrophes qui peuvent nous arriver. C'est pourquoi Bergson décrivait dans les deux sources de la morale et de la religion une fonction anthropologique fondamentale qu'il appelait la fonction fabulatrice. Nous avons besoin de récits pour nous situer par rapport aux dangers qui peuvent nous arriver, pour donner un sens à notre vie. Mais ce récit, Paul Ricoeur avait déjà bien montré dans sa théorie de l'identité narrative qu'il n'était pas n'importe lequel. La façon de se situer dans une histoire n'est pas seulement la façon, pour un enfant par exemple, de surmonter ses angoisses, de traverser des crises et de s'approprier les grands dangers de l'existence humaine, d'entrer dans le monde de la culture. C'est aussi, pour un être humain, une façon de se situer dans son identité même, entre l'identité figée, objective d'un être humain qui le rattacherait à un terroir ou à une histoire extérieure, et l'absence d'identité, il y a ce que Ricoeur appelait l'identité narrative. La narration, l'histoire est donc une vraie force. La façon dont nous nous situons dans l'histoire est une force historique puisqu'elle produit le sens même de notre vie, du sens que nous lui donnons, le fait d'être nous-mêmes dans le temps, de persister avec une continuité, ce que nous appelons l'identité ou comme Ricoeur disait, l'ipséité, le fait de rester le même à travers les transformations du temps. Se situer dans l'histoire est donc soi-même, est donc une force historique. Et c'est pourquoi entre l'histoire individuelle et l'histoire universelle, il y a toujours aussi le conflit des représentations de l'histoire, le conflit des représentations des identités. La manière dont on se situe mutuellement dans le temps, dont nos histoires se relient les unes aux autres dans leurs différences, est en réalité le tissu même de l'histoire universelle. Il n'y a peut-être plus de grands récits universels qui permettent à toutes nos histoires de se concilier uniformément dans une sorte de grand récit mondial. Il n'y a pas non plus un éclatement des identités narratives individuelles. Nous pouvons nous les raconter les unes aux autres, nous situer mutuellement dans l'histoire, y compris avec nos conflits. Peut-être que le cœur de l'histoire aujourd'hui, c'est la narration des conflits entre les histoires, une histoire des conflictualités, une histoire des diversités qui permet de se situer pour les dépasser, pour dépasser ces conflits historiques qui risquent de se répéter si on n'apprend pas à les comprendre.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Cassandre Puel, avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Carla Michel, Anna Felpin et Nassim Elkabli. Merci à tout le monde. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.